pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un effet positif de la dégradation de l'environnement. Et oui, il y en a. Les scientifiques sortent de leur laboratoire pour expliquer et les citoyens développent leurs connaissances à leur côté. C'est ce que l'on appelle les sciences participatives. Nous vous emmènerons dans les îles du delta du Saloum au Sénégal, plus précisément sur l'île de Niodior, où les femmes pêcheuses d'arches, un coquillage, travaillent avec des scientifiques pour comprendre pourquoi cette ressource millénaire disparaît. Ce type de collaboration existe dans le monde entier et tout le monde y gagne, comme nous allons vous l'expliquer avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Sylvain Perret.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département environnement et société du CIRAD, le Centre international pour la recherche agronomique pour le développement. Alors le nom de votre département démontre déjà que la science que vous menez est en lien avec les sociétés, pas hors sol.
Oui, absolument. Nous menons ce que l'on appelle une recherche finalisée, c'est-à-dire une recherche qui répond au canon de la recherche scientifique, c'est-à-dire avec des méthodes, avec les obligations de publication de résultats, etc. Mais surtout, d'être très orienté sur les besoins des sociétés, notamment au Sud, puisque c'est là notre mandat, les sociétés des pays que l'on appelait avant en développement ou en conditions de développement, et dans lesquelles nous apportons un appui par la recherche sur la résolution de problèmes agricoles, environnementaux et dans les domaines ruraux en général. Voilà.
Voilà, et les sciences participatives prennent une place de plus en plus importante dans ces recherches. Alors, comment est-ce que vous définiriez les sciences participatives ?
Alors, bon, il y a quelques définitions qui circulent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau français, européen, en 2016-2017, il y a eu vraiment une initiative par le ministère de la Recherche et d'Enseignement supérieur qui a voulu un petit peu structurer ce domaine qui, déjà, il y a quelques années, était en réémergence forte. Et sous la houlette de François Houllier, qui était alors PDG de l'INRA, un groupe de travail a essayé de structurer, de regarder un petit peu ce qui se faisait de par le monde et de donner un petit peu une définition un peu générique à ces sciences participatives. Bah, c'est simplement des formes de recherche dans lesquelles des acteurs de la société, hein, qui ne sont pas des chercheurs eux-mêmes, sont impliqués et apportent leurs connaissances, leurs savoirs. Et les chercheurs, en retour, essayent de mobiliser ces savoirs pour démultiplier leur capacité de collecter de l'information, mais aussi avec des objectifs de sensibilisation à des problématiques de la part des citoyens, et puis de la montée en capacité, de l'autonomisation, de la sensibilisation aux sujets environnementaux et aux grands sujets de société que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça, ce grand ensemble des sciences participatives. C'est plus impliqué des citoyens qui ne sont eux-mêmes pas du tout des professionnels de la science, mais qui ont des savoirs, qui ont des savoir-faire et qui peuvent contribuer et qui sont aussi intéressés par la résolution des problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes avec des chercheurs. C'est ça qui est intéressant aussi dans les sciences participatives, c'est ce côté un petit peu mutualisation et participation des citoyens à la résolution de problèmes qu'ils rencontrent par des démarches un peu scientifiques. Voilà un petit peu l'enjeu.
Alors il y en a différentes formes, hein. Ça peut aller du travail avec des scolaires, des collégiens, des lycéens, avec des agriculteurs sur le terrain ou plus largement avec les autorités locales même, enfin c'est assez vaste.
Déjà, il faut peut-être poser le fait que ces démarches participatives ne sont pas nouvelles. Hein. C'est quelque chose qui réémerge aujourd'hui. Hein. On voit bien que au fil des crises, depuis les histoires de vaches folles, les histoires aujourd'hui de Covid, et puis le monde de la science et les relations surtout entre la science et les sociétés se sont un peu troublées. Ces relations qui étaient une grande relation de confiance pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Hein. La science pourvoyait tout un tas de technologies, elle le fait encore aujourd'hui, qui rendent la vie des citoyens plus facile, améliore le bien-être, etc. Mais ces relations se sont un peu troublées avec, on le voit aujourd'hui, hein, en plein dans la crise Covid, là, des doutes, des suspicions. Est-ce que la science vraiment œuvre pour le bien-être des citoyens toujours ? Voilà, il y a des tas de questions qui se posent. On voit aussi les questions environnementales qui sont très fortes et dans lesquelles des avancées technologiques qui apportent des bénéfices d'un côté peuvent apporter par contre des effets néfastes d'autres, du côté notamment environnemental. Donc on voit bien que les sociétés ont une attitude un peu de doute. Et l'idée aussi de ces sciences participatives, et c'est pour ça qu'elles remontent en puissance aujourd'hui, c'est que c'est renouer aussi un dialogue entre les citoyens et les scientifiques qui, eux, bah, normalement, essaient de faire leur boulot et de travailler pour et avec les sociétés. Donc, ces sciences perspectives, c'est un peu le trait d'union qui a manqué un petit peu ces dernières années et qui a tendance à revenir. Mais ce n'est pas nouveau parce que, d'abord, parce qu'il y a des domaines dans lesquels la relation avec des citoyens, hein, des bénéficiaires finaux, on pourrait dire, que ce soit dans les sciences de l'éducation, historiquement, ou dans la médecine, par exemple, il y a eu une grande tradition de sciences dites participatives. Et puis, il y a aussi des thématiques ou des disciplines, comme les sciences humaines et sociales, bien sûr, dans lesquelles, évidemment, que les objets de recherche eux-mêmes sont les sociétés, sont des groupes sociaux, sont des individus eux-mêmes. Donc, ne pas être en interaction avec eux, ça serait une erreur méthodologique grave. Donc, voilà aussi les moteurs qui font que les sciences participatives sont de nouveau mises à l'honneur aujourd'hui.
Et cette nouvelle forme de recherche se développe beaucoup en ce moment, sur tous les continents ?
Oui, beaucoup. C'est le monde anglo-saxon, quand même, on peut le dire, qui a donné un petit peu le tempo hein, ces dernières années en faisant des avancées méthodologiques très fortes hein, autour de différents types de sciences participatives, en remettant aussi au goût du jour des méthodes, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui sont déjà un peu anciennes, mais qui ont élargi au-delà de domaines des sciences de l'éducation et des sciences médicales qui étaient très en avance sur ces domaines-là et qui maintenant touchent tout un tas de domaines. Il y a aussi des domaines aussi pointus que l'astronomie ou même la physique, hein, où on voit bien que des amateurs éclairés, simplement des citoyens comme vous et moi, mais qui simplement ont un intérêt particulier et sans doute aussi un savoir-faire sur certaines disciplines ou capables d'aller observer des phénomènes, ont été alimentés des équipes scientifiques en données, en informations, voire même on contribue à des découvertes importantes. On peut dire aussi que dans la recherche, par exemple celle que nous pratiquons au CIRAD, hein, autour du développement agricole, dans les milieux ruraux, les problématiques environnementales, etc., on a trop longtemps ignoré les savoirs locaux, le fait que les populations elles-mêmes sont les mieux placées pour faire le diagnostic des problèmes qu'elles rencontrent. Et puis, alors, si elles n'ont pas toutes les clés pour les solutions, elles ont au moins un certain nombre de connaissances qui sont importantes à remettre en avant. Et puis, elles ont une capacité à démultiplier la collecte d'informations parce qu'elles-mêmes, sur le terrain, tous les jours au contact des ressources renouvelables, des activités agricoles qu'elles pratiquent, peuvent alimenter la recherche en tout un tas d'informations. Donc ça, c'est très important aussi.
Je vous propose justement d'aller sur le terrain. Nous partons dans les îles du delta du Saloum, au Sénégal, où l'immense majorité des femmes vit de la pêche aux coquillages.
Qu'est-ce que ça veut dire les paroles de la chanson ?
Qu'on protège la mer, c'est les poissons qui sont... Hein?
Car nous, les insulaires, le poisson est notre salaire. Ce qui vient de la mer est notre salaire. Il faut qu'on protège et conserve.
À tout ça, vous êtes responsable de la fédération de tous les groupements de femmes pêcheuses de Niodior. Il y a combien de femmes qui pêchent sur l'île ?
Plus de 800 femmes font cette activité.
Donc il y a 800 femmes pêcheuses sur une île de 6000 habitants, Niodior.
L'arche, c'est un coquillage collecté depuis des millénaires sur ces rivages d'Afrique de l'Ouest. Mais la ressource décline depuis plus de 20 ans. Alors ce phénomène est-il dû à la pression de la pêche ou aux conséquences du changement climatique sur l'écosystème fragile de cet estuaire ? Eh bien, pour trouver des réponses, des scientifiques français et sénégalais ont mis en place plusieurs programmes de sciences participatives. En lien avec les femmes pêcheuses, ils tentent de mieux comprendre cette espèce qui s'avère aussi un précieux témoin de l'évolution du climat. Virginie de Roquigny a embarqué en pirogue avec un groupe de pêcheuses de l'île de Niodior et une équipe de scientifiques menée par Johan Thomas, écologue à l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement.
Allez, mets-les devant tout, mets-les
ça. Ça fait du bien l'eau fraîche, hein, parce qu'il fait chaud.
Ça fait du bien. Même les femmes, elles vont commencer à nager, à faire tout dans l'eau. Là, on y trouve bien.
On se dirige un peu plus avec les femmes vers la côte, vers la mangrove. On est immergé jusqu'au-dessus du genou. Elles ont toutes des bassines accrochées avec une ficelle à leur ceinture qui flotte derrière elles. Donc vous plongez vos deux mains et vous grattez avec les doigts.
Oui. Et ça, c'est plus marrant parce que tu plonges les mains, tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans l'eau.
C'est la joie de la pêche, ça.
Oui, c'est là surtout. Et on chantonne. On chantonne pour nous encourager nous-mêmes.
Fatou Sarr, vous pêchez depuis toujours ?
Moi, peut-être je peux dire que j'ai commencé tout au début,
Parce qu'avant, c'était une activité qui n'était pas trop pénible. On partait quand on n'allait pas à l'école, on partait faire la pêche. Mais depuis 20 ans, 25 ans que j'ai laissé l'école, j'ai fait cette activité, mon activité principale.
Vous êtes aussi responsable, vous avez des responsabilités collectives. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans cette, auprès des autres femmes pêcheuses de l'île?
Oui, là, on a commencé depuis qu'on a senti que les ressources ont un peu diminué. Et là, juste avec les changements climatiques, l'ensablement des vasières, il y a des vasières qui sont dégradées. Le stock se diminue et là, on fait le repeuplement des coquillages. C'est aller dans une autre vasière pour repeupler une autre qui est dégradée. Et maintenant, on a essayé de vouloir faire un challenge comme mieux transformer, mais moins prélever pour pérenniser l'activité.
Donc vendre à meilleur prix et du coup, vous avez besoin de moins pêcher pour gagner votre vie.
Oui, pour gagner, c'est ça notre slogan. Moins prélevé pour mieux transformer, pouvoir valoriser plus les produits pour pouvoir avoir quelque chose de plus comme ça.
Les arches que trouvent les pêcheuses sont de plus en plus rares et de plus en plus petites. Johan Thomas, biologiste, étudie ce coquillage de près. Il nous a emmenés sur l'un des sites qu'il suit depuis plusieurs années, sur un banc de sable au large de l'île de Njordjur. Donc là, Johan, c'est votre parc.
Voilà, donc ça c'est notre parc expérimental. Alors c'est un parc expérimental local fait avec du bois de mangrove. Et donc en fait on a un parc qui fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres et autour on a fait une petite zone qu'on appelle une zone tampon qu'on a nettoyée entre guillemets, on a retiré tous les animaux et on a ensuite ensemencé avec des animaux qu'on allait chercher sur le Sarré juste à côté avec des petits et des grands pour essayer de voir comment les petits grandissent et les grandes grandissent.
L'objectif de tout ça?
En fait, ça fait des millénaires que ce coquillage est pêché et c'est pour ça qu'on retrouve des amas coquillés de plusieurs mètres, voire 10, 20 mètres. Et malgré ça, on connaît très très peu son écologie. Et en fait, nous, les grosses interrogations, c'est savoir comment la variabilité de l'environnement, la variabilité du sel avec la mousson, la variabilité des températures, influence sa croissance, sa reproduction. Et donc, c'est l'objet de nos recherches ici, de mieux comprendre comment l'environnement va agir sur cet animal. Et c'est pour ça qu'on met en place des parcs expérimentaux avec un suivi régulier où on fait des échantillons et des analyses des animaux.
L'idée, c'est aussi de pouvoir se projeter et de savoir si cette pêche artisanale, mais essentielle ici dans le Saloum, peut s'inscrire dans du long terme, enfin, et durable.
Et oui, c'est ça. En fait, par la transformation de l'activité qui était plutôt une pêche vivrière en une pêche qui devient plutôt commerciale, on a aussi, en conjonction avec les changements environnementaux, on entend beaucoup parler des changements climatiques, on a beaucoup de pression sur cette ressource en coquillage. Et l'objectif, effectivement, c'est de s'inscrire dans une activité durable qui est extrêmement importante pour les communautés ici. Et donc, mieux comprendre l'écologie de notre animal, mieux comprendre sa dynamique, c'est être capable d'apporter des éléments, des outils, des connaissances qui vont permettre de mieux gérer la ressource.
Bon, bah, allô, alors.
Allez.
Donc ça y est, ils ont posé le cadran. Vous avez posé le cadran là?
Oui, on a posé.
Ah oui.
Là, on est en train de récupérer le sédiment dans lequel on va retrouver tous nos individus. Là, par exemple, j'en ai pris une poignée. On retrouve nos arches et en fait, on va les tamiser dans nos petits tamis et ça va nous permettre de récupérer tous les animaux. On va ensuite mesurer. Et il y en a beaucoup.
Beaucoup de petits.
Et donc ce qui est très intéressant aussi de faire ces approches avec les femmes, c'est que ça nous permet, dans ces moments sur le terrain où on est ensemble, de regarder ensemble les coquillages, de discuter et de parler de cycle de vie justement, des coquillages et d'échanger avec elles leurs connaissances, ce qu'elles savent aussi de ces périodes-là, de la variabilité. Donc c'est aussi ça qui est extrêmement important dans ces moments-là.
Ça y est, là, on passe au tamis. C'est des grandes passoires en fait, les tamis. Et les femmes sont en train de faire le tri.
Et ça, c'est les petits de l'année.
Donc c'est une minuscule arche, donc ça ressemble à une coque. Hein.
Ça ressemble à une
et
coque.
Et ça fait
4 mm, 5 mm, ça c'est vraiment celle de l'année. On voit celles de l'année dernière qui font à peu près 12 mm, 1 cm, un peu plus d'un centimètre. Donc c'est bien, on devine déjà rien que dans les tamis un petit peu l'idée de la structure de notre population. Et donc là, voilà, on sait que cette année, il y a des petits.
Donc la femme qu'on entend chanter, c'est Dieissa, qui porte une robe multicolore, un turban assorti. On va essayer d'aller la voir. Qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à la ressource depuis que vous pêchez?
Actuellement, il y a presque plus d'arches. La ressource est complètement raréfiée.
Parce que vous donnez une fille.
Avant, il y a plus de 10 ans, 20 ans en arrière, le tour qu'on a fait comme ça, on pouvait avoir un sac, juste un tour, un sac.
Donc là, dans les mains, vous avez un tamis qui est rempli à moitié, ce qui représente même pas une bassine, donc même pas peut-être un quart ou un dixième de ce que vous pêchiez il y a 20 ans, quoi. C'est ça. Ouais.
Oui, effectivement. On avait beaucoup d'arches. La ressource était abondante. Elle était abondante.
Vous êtes aujourd'hui venu pêcher avec les scientifiques dans le cadre d'un programme de sciences participatives avec des biologistes qui justement étudient l'arche. Comment est-ce que vous voyez l'arrivée de ces scientifiques qui viennent travailler auprès de vous et étudier ce coquillage dont vous vivez?
Donc, en côtoyant les scientifiques, par exemple ça, ce qu'on a là sous les yeux, le parc qu'ils ont installé, on sait pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'on l'avait fait dans le cadre du projet Femmes et coquillages avec le professeur Malik de l'université Cheikh Diop.
Vous avez participé à la construction de ce parc?
Par exemple, dans le cadre du projet Femmes et coquillages avec le parc qu'on avait installé avec le professeur Malik, on avait fait un ensemencement. Il avait choisi un endroit dans la vasière, dans le banc de sable. Et ensuite, cet endroit-là, il a été clôturé. Et on a ensemencé. On est resté un an sans y toucher. Et la fois où on est venu pour récolter, on a compris que l'arche ne restait pas sur place. L'arche se déplaçait. Nous, on n'avait jamais su que l'arche pouvait se déplacer. À ce moment-là, on a compris que l'arche se déplaçait. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait mis à l'intérieur, c'est pas la même chose, c'est pas la même quantité qu'on a retrouvée. Mais par contre, on a vu qu'elles ont grandi en taille. Avec les congénères, on comprend aujourd'hui quel est l'intérêt de travailler, de faire ce travail-là avec les scientifiques.
Maintenant, vous êtes en train de trier les coquillages. Vous vous êtes assise dans l'eau. Et c'est l'heure du tri. Pour comprendre comment l'arche réagit aux variations environnementales, il faut avoir des données. Or, les scientifiques en ont très peu sur l'écosystème du delta du Saloum. Pour espérer pouvoir multiplier les systèmes d'observation, Johan Thomas teste des sondes expérimentales, low-cost et low-tech, qu'il a développées en France et qui coûtent 5 à 10 fois moins cher que les instruments du commerce.
On place des piquets qu'on a enfoncés dans le sédiment et qui vont nous servir de support pour à la fois un panneau solaire qui va permettre d'alimenter notre système, de le maintenir avec de l'énergie pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, vraiment à proximité du sédiment, on va mettre deux sondes. Une sonde du commerce qui nous permet d'avoir un système, on va dire, opérationnel, et notre système expérimental. Et on pourra comparer justement les données que vont nous donner les deux systèmes.
Donc là, les capteurs, c'est température, salinité.
Alors on a, oui, température, salinité, la pression, qui nous permet d'avoir une idée de la hauteur d'eau et donc du cycle de marée. Et à côté de ça, on a un capteur qui nous permet d'avoir la fluorescence dans l'eau. Et donc la fluorescence, c'est un indicateur de la quantité de phytoplancton, qui sont les micro-algues dont se nourrissent les arches. Et donc la fluorescence nous permet d'avoir un peu une idée de la quantité de nourriture qu'on a dans le milieu. Et la turbidité. Turbidité, c'est un petit peu un indicateur de toute la matière qui est en suspension dans l'eau. Organique, donc vivante ou pas organique. Et donc des micro-particules de sable, par exemple. Et qui sont aussi des éléments importants parce que ça peut venir perturber la nutrition de nos animaux.
Donc un petit panneau solaire, un tuyau PVC dans lequel sont cachés tous les capteurs.
L'idée c'est aussi d'avoir un système donc qui soit ouvert et donc reproductible à moindre coût et avec du matériel qui soit le plus disponible possible. Le tuyau PVC, les raccords PVC, tout ça c'est des choses qui se trouvent facilement. Et puis après on a un petit peu d'usinage et donc on travaille, il y a de plus en plus dans les villes, un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle des Fab Labs qui sont équipés de matériel pour faire de l'électronique, pour faire un peu de mécanique. Et donc là on développe des plans qu'on donne après en open source, disponibles sur le net, pour faire toutes les pièces de notre puzzle. Et voilà, ça donne quelque chose de relativement robuste et assez simple.
Simila yo haramane Bismila yo kowadionti wadi haramane kowadionti wadi ila yo
suis avec Johan Thomas, biologiste, et puis Babacar Sané, Thésard aussi en biologie, tous les deux de l'IRD. Et on arrive devant un amas coquillé. Donc c'est ça l'amas coquillé, cette grande colline qu'on longe.
Oui, c'est ça. Donc sur notre droite, on a le bolon, ça veut dire l'eau, un peu de mangrove. Et sur notre gauche, on a une petite colline qui doit faire entre 5 et 5-6 mètres de haut. Et en fait, c'est une accumulation de coquillages qui vient de la pêche des femmes. Donc concrètement, en fait, après chaque pêche, elle ramène les animaux vivants. Elle les chauffe pour pouvoir les ouvrir, récupérer la chair. Et donc après ça, il leur reste des tas de coquilles. Et les coquilles se sont accumulées, elles ont formé des véritables collines, comme on peut voir sur notre gauche. Et on voit notamment qu'il y a des magnifiques baobabs qui poussent dessus, puisque c'est des espèces qui aiment bien les terres calcaires. Et donc, en fait, souvent, on voit des baobabs qui surplombent la mangrove, en fait, qui sont perchés sur le haut des amas coquillés.
On peut grimper dessus ?
Eh ben oui, on va grimper dessus. On va trouver un endroit pour monter là. Donc on est après la saison des pluies, ce qui fait que c'est relativement vert. Il y a pas mal de végétation. Donc on va trouver un petit chemin, mais il y a quelques petits chemins qui serpentent sur l'amas coquillé. Donc là on voit bien les coquillages. Sur le haut.
Ouais, on va aller tout en haut sous le baobab peut-être. Donc sous nos pieds, des coquillages pêchés depuis combien de temps ?
Globalement, on a des datations qui vont jusqu'à 2000 ans. Et certaines coquilles ont pu être datées de 5000 ans par des collègues, mais pas nécessairement sur cet amas-là.
Comment est-ce qu'on date une coquille d'arche ?
Donc on récupère, concrètement, la plupart du temps, on récupère des débris de feu qui sont sur les mêmes couches stratigraphiques que les coquillages. Et on fait une datation au carbone 14. Et donc ça nous permet de savoir à quelques années, dizaines d'années près, l'âge du petit morceau de feu qu'on a à côté de notre coquille. Et donc ça nous donne une idée assez précise de l'âge de la coquille dans la couche dans laquelle on l'a échantillonné.
Et vous, en tant que biologiste, Johan Thomas, spécialisé dans ce coquillage, l'arche, qu'ici on appelle le pagne d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle vous apporte, ces informations du passé ?
Alors il y a plein d'informations qu'on peut tirer d'une coquille et notamment de l'accumulation de ces coquilles. Et donc en fait ce qui nous intéresse c'est d'essayer de comprendre au travers des informations qu'on peut tirer des coquilles, l'évolution à la fois du climat passé mais aussi l'évolution des performances de l'espèce qu'on étudie, donc de l'arche en particulier. On peut remonter dans le passé de l'histoire d'une coquille en la coupant et en regardant comment les choses ont évolué entre le début de la croissance et la fin de la croissance, la fin de la vie de la coquille.
Donc à travers une coquille, vous arrivez à lire, par exemple, une période de mousson, ce genre de choses.
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est comme pour un arbre. Un arbre dans un écosystème tempéré où il y a un été, un hiver, si vous coupez un arbre, vous regardez, vous allez voir ce qu'on appelle des cernes de croissance. Donc on a des stries qui sont formées parce qu'en fait, en hiver, l'arbre il va s'arrêter de grandir et il va former une petite strie un petit peu plus foncée. Et bien pour les coquillages, c'est exactement pareil. Ça veut dire que quand elles se trouvent dans une situation de stress, qu'elles arrêtent leur croissance, ces espèces elles vont former une petite strie dans leur coquille. Quand c'est la mousson, d'un seul coup, on a énormément d'eau douce qui arrive. Et donc ça dessale complètement l'eau. Et donc ça, c'est un événement de stress pour les coquilles. Et cet événement de stress, quand on coupe une coquille, qu'on le regarde, qu'on regarde les stries de croissance dont je parlais tout à l'heure, et bien on voit une marque un peu plus sombre, des stries beaucoup plus resserrées. Parce que c'est un événement de stress. Et donc, en fait, quand on regarde ces stries-là associées à la mousson, on peut étudier tout un tas de choses. La durée de la mousson, l'espacement entre une mousson et celle d'après. Est-ce que d'une année sur l'autre, pendant la vie de la coquille, les moussons ont évolué ? Est-ce qu'elles ont été différentes ou pas ?
Donc, à travers une simple coquille, on remonte le temps, en quelque sorte ?
On remonte le temps à différentes échelles. On peut, effectivement, regarder une coquille pour savoir comment les animaux grandissaient il y a 2000 ans. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'au final, on n'y était pas, mais on a en fait une forme d'échantillonnage qui a été fait pour nous il y a 2000 ans par les femmes sans le savoir, qui nous permet maintenant d'avoir accès à cette archive. Et ensuite, donc on peut regarder ce qui se passait il y a 2000 ans, mais en comparant il y a 2000 ans avec il y a 1500 ans, avec il y a 1000 ans, avec il y a 500 ans, on peut voir est-ce que le climat passé a modifié les performances de notre espèce. Et donc ça, c'est ce qui fait vraiment le cœur des projets sur lesquels on travaille, c'est essayer de s'inspirer de la manière dont les espèces ont répondu aux variations du climat passé pour être capable d'envisager comment ils seraient susceptibles de répondre aux variations du climat futur. Et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, avec les problématiques associées au changement climatique, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Parce que, notamment, la biodiversité et la durabilité des activités comme la pêche dépendent de la manière dont les espèces vont répondre à ces contraintes, environnementales en particulier. Donc, mieux comprendre le passé de cette espèce devrait nous permettre de pouvoir un peu mieux anticiper son avenir.
Un reportage de Virginie de Roquigny réalisé par François Porcheron et vous pouvez retrouver ce reportage en images sur la page web de l'émission et sur les réseaux sociaux de C'est pas du vent grâce aux magnifiques photos de Constance Decorde.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Sylvain Perret, je rappelle que vous êtes directeur du département environnement et société du CIRAD. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Alors déjà, il est extrêmement intéressant et il illustre bien une des facettes de ce que l'on caractérise comme étant l'ensemble des démarches participatives. Hein. Donc c'est une démarche là qui relève plutôt de ce qu'on appellerait les sciences citoyennes, qui est une très mauvaise traduction du terme de citizen science anglais, qui relève du fait que donc des citoyens, et là en l'occurrence des femmes, qui sont les premières actrices de la collecte de ce coquillage et qui observent, qui sont les premières observatrices et sans doute victimes de la dégradation de la ressource, sont actrices d'activités de recherche en alimentant des chercheurs qui témoignent aussi dans ce reportage de la dynamique de ces populations de coquillages et d'une meilleure compréhension de ce qui se passe dans cet écosystème fragilisé par sans doute, d'un côté sans doute, une surpêche et puis de l'autre, les effets néfastes environnementaux, sans doute le changement climatique qui intervient.
Alors, on entend dans le reportage hein, vraiment la collaboration et le côté gagnant-gagnant, on va dire, des sciences participatives, puisque les femmes, elles comprennent mieux leur environnement, comprennent mieux ce qui se passe autour de la ressource dont elles dépendent. Et puis, les scientifiques, pour eux, c'est un moyen de collecter des données qui seraient très compliquées à collecter sans la collaboration de ces femmes.
Absolument, c'est vraiment une illustration parfaite de ces sciences citoyennes où les chercheurs sont alimentés en informations, en données même, par des acteurs directs, des citoyens qui sont sur le terrain et qui participent à ces activités. Là, ce qui est frappant dans le reportage, c'est d'abord, je trouve, la grande connaissance des processus en jeu par les femmes elles-mêmes qui, elles, sont les collectrices de ces coquillages. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a à la fois une connaissance, un savoir préalable très, très solide sur la dynamique, l'écologie même de ce coquillage. Mais en même temps, l'interaction avec la recherche fait qu'elles améliorent encore leurs connaissances. Il y avait des choses qu'elles découvrent. Le fait que les coquillages se déplacent, par exemple, c'est témoigné à un moment donné dans le reportage. Et donc, c'est intéressant de voir ce jeu d'interaction entre la recherche qui alimente en informations supplémentaires, qui elle-même récupère des informations collectées par ces femmes. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que justement, il s'agit de femmes et que ça, c'est un des bénéfices importants de la science participative, c'est qu'au contact des populations, des opérateurs et opératrices, même des actions qui sont en jeu dans l'interaction, production, collecte de ressources renouvelables, etc., ce sont vraiment les acteurs en jeu, ceux qui sont acteurs sur le terrain, les opérateurs qui sont considérés. Imaginez qu'on fasse une étude un peu lointaine, un peu statistique sur qu'est-ce qui se passe dans ces îles autour du devenir de ce coquillage. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait des enquêtes auprès de ce qu'on appellerait les ménages agricoles ou les ménages de pêcheurs. Et qui est-ce qu'on interviewerait? Bah, classiquement, le chef d'exploitation. Et cette personne qui est sans doute un mari aimant et sympathique au demeurant. Mais il n'aurait pas le savoir qu'ont ces femmes qui, elles, sont celles qui sont sur les pirogues et qui tous les jours vont collecter ces coquillages. Donc ce biais-là, il est bien contourné, il est bien levé, cette obstacle par le recours aux sciences participatives où on va directement auprès des opérateurs qui sont sur le terrain et qui travaillent et qui ont l'information et qui ont ces savoirs.
Et ça leur donne une certaine fierté aussi, du coup, parce que c'est une reconnaissance de leur connaissance, de leur travail.
Alors ça, c'est très important. C'est une dimension qui, je le sais, de la part des chercheurs qui étaient impliqués dans le reportage, hein, les chercheurs, les collègues de l'IRD, c'est aussi quelque chose que nous portons très fortement au CIRAD. C'est une compréhension très large de ce que l'on appelle le développement, qui est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, recherche pour le développement. Mais finalement, c'est quoi le développement? On a souvent en tête développement économique, croissance, etc. Mais il s'agit essentiellement de l'émancipation individuelle et de petits collectifs au sein de communautés dans les pays du Sud. C'est ça le développement, c'est comment le bien-être des personnes s'améliore, comment faisons-nous des progrès dans la reconnaissance des personnes comme ayant des savoirs, ayant des savoir-faire et une vraie position sociale et reconnue en tant qu'acteurs non seulement économiques mais aussi sociaux dans les groupes dans lesquels ils sont acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui transparaît bien dans le reportage. On voit bien que ces femmes, quand elles s'expriment sur le diagnostic qu'elles ont de la situation, les informations qu'elles échangent avec les chercheurs, il y a une fierté. Et cette fierté, au-delà du côté un peu anecdotique, c'est vraiment les apprentissages qui peuvent être générés par les sciences participatives, cette montée en capacité, cette émancipation, cette reconnaissance que oui, il y a des savoirs, il y a des savoir-faire qui existent au niveau local et que toute connaissance scientifique a de la valeur, bien sûr, mais elle ne couvre pas l'ensemble des connaissances et des savoirs qui existent de par le monde. Et dans ces pays, notamment au sud, il y a dans les communautés locales une immensité de savoir, une grande importance à prendre en connaissance et à capitaliser tous ces savoirs, parce que nous, les chercheurs, nous ne les avons pas. Nous ne sommes pas sur le terrain, nous n'avons pas cette finesse du suivi. On le voit bien dans les témoignages que font ces femmes sur voilà, dans le passé, je collectais tant de coquillages, aujourd'hui beaucoup moins, etc. Alors tout ça est assez empirique, peu quantifié, mais c'est normal. Et donc le chercheur arrive avec lui des outils, on le voit bien dans l'illustration du reportage, des outils qu'il essaye de rendre simples, accessibles, mais qui permettent de quantifier un petit peu mieux, de donner un petit peu, de rationaliser, de donner du sens à toutes ces observations très valables que font ces femmes. Ça, c'est très intéressant et ça transparaît bien dans le reportage.
Et ça permet du coup d'apporter des réponses. Enfin là, on sent bien dans le reportage, c'est les voilà, c'est, on est encore au stade du questionnement. Mais vous avez des programmes au CIRAD de sciences participatives qui ont du coup eu pour conséquence d'apporter des réponses très concrètes et avec des effets positifs pour les populations.
Oui, tout à fait. Dans cette famille de sciences participatives ou de démarches participatives, il y a quand même deux grandes catégories. Il y a une catégorie dont relèvent les activités relatées dans le reportage. Il y a avant tout production de connaissances. Alors évidemment, c'est dit, notamment par le collègue chercheur qui s'exprime dans le reportage, cette production de connaissances a vocation à créer les conditions pour qu'on améliore un petit peu cette pêche et de voir un petit peu les conséquences de changements futurs, etc. Mais on produit essentiellement de la connaissance quand même. Et nous avons engagé au CIRAD une démarche qui est dans la production non seulement de connaissances, mais aussi de changements. Nous voulons être acteurs de changements. Quelqu'un, quelque part, doit progresser dans les pratiques. Là, en l'occurrence, on parle de pêche, mais ça peut être dans des pratiques agricoles, des pratiques d'élevage, pour que dans les pays du Sud, le bien-être, le revenu, les questions d'équité, par exemple, dans les systèmes que nous étudions, soient améliorés. Et ça, cette production changement, elle ne peut pas se limiter à ces activités de production de connaissances, fussent-elles participatives et mobilisatrices de savoirs locaux. Il faut aussi engager tout un processus participatif lui aussi. Hein, donc c'est tout ça, c'est des méthodes qui s'enrichissent l'une et l'autre et nous faisons vraiment partie d'une famille de sciences participatives, mais qui vise à générer du changement vers des systèmes plus durables.
Alors par exemple,
on a étudié sur des dizaines et des dizaines d'années l'effet de programmes de recherche sur l'attaque de pestes de type insectes nuisibles sur du café en Amérique centrale, avec des solutions via toute une longue chaîne de programmes participatifs arrivés au bout à des solutions finalement assez simples, hein, mais co-construites avec les populations, de piégeage de ces insectes. Et les caféiers aujourd'hui en Amérique centrale se trouvent dans des situations meilleures. Mais les caféiers, c'est une chose, mais c'est surtout les producteurs de café, les petits producteurs qui se trouvent avec des revenus et une stabilisation de leurs revenus par une meilleure stabilité de leur rendement par la limitation de ces pestes. C'est un exemple. À Madagascar, nous avons travaillé sur la sortie d'une production de riz qui, de façon mais traditionnelle, multimillénaire, se faisait dans les bas-fonds, hein, l'image traditionnelle des rizières de bas-fonds à Madagascar, pour introduire quelque chose qui était une véritable révolution et de façon participative pour faire du riz pluvial, c'est-à-dire non plus immergé dans de l'eau, mais sur des, comme on cultiverait du blé sur des versants, et avec de nouvelles variétés. Donc là, il y a effectivement un apport de scientifique qui est nécessaire, parce que les paysans n'avaient pas ces variétés. Mais en revanche, tout le processus participatif de comment change-t-on tout le processus de production pour passer de rizières inondées à des versants secs. Et ça, c'est tout un processus qui, aujourd'hui, sur les hautes terres de Madagascar, a eu un grand succès. C'est des programmes de recherche qui ont duré sur des dizaines d'années. Et nous sommes en capacité aujourd'hui de mesurer les impacts et de voir l'effet positif de la recherche là-dedans. Ce qui est important dans le côté participatif, c'est qu'on voit bien que souvent, les blocages à ces changements que j'évoquais, c'est aussi les régulations publiques, l'action publique, les politiques publiques en œuvre. Il ne suffit pas seulement de la bonne volonté de paysans de changer de pratique, qui souvent prennent tous les risques dans ces cas-là et ne sont pas toujours bien accompagnés au niveau juridique, au niveau légal, au niveau économique. Et c'est donc important dans ces démarches participatives d'impliquer des acteurs de l'action publique, des autorités locales par exemple, qui peuvent elles aussi être complètement acteurs de ces démarches participatives, participent à ces ateliers, à ces discussions que nous avons, à ces travaux sur le terrain, et qui elles-mêmes ensuite peuvent relayer cela en traduisant tout cela en politique publique, en action publique, en instruments économiques, juridiques, financiers, etc., pour accompagner les producteurs vers des pratiques plus durables.
Et du coup, quelles sont les principales difficultés de mise en place? Si des gens nous écoutent, là, ils se disent ben, « moi, je suis agriculteur, je suis pêcheur, j'aimerais bien pouvoir avoir accès à ces sciences participatives, ou je suis une autorité locale, j'ai des problématiques dans ma localité, je voudrais faire venir des scientifiques », tout ça, comment ça se passe en fait?
En fait, dans les pays du Nord, aujourd'hui, il y a un mouvement très large, et je dirais que c'est relativement facile, et c'est quelque chose qui est très en vogue. Hein. On a des associations de quartier qui commencent à s'organiser, qui ont envie de régler un problème. Souvent, c'est ça le point de départ. Le premier fil de la pelote qui est attiré, c'est un problème qui est identifié par un collectif et on veut le régler. Et donc, je mentionne des associations au nord. Au sud, ça peut être une ONG, ça peut être une organisation paysanne, ça peut être souvent la constitution d'un groupe qui se coordonne un petit peu et qui se met d'accord pour avoir identifié un problème et avoir une vision sur comment on verrait un futur souhaitable, donc la résolution de ce problème vers des systèmes un peu plus durables, une meilleure organisation, des solutions techniques qui nous seraient proposées. C'est souvent ça le point de cristallisation initial, c'est qu'un petit groupe se constitue et ensuite fait appel à une ONG et pourquoi pas à la recherche quand nous sommes présents sur le terrain. Alors la difficulté, c'est que le pilotage par les citoyens eux-mêmes, il est bien présent. Ça veut dire que la recherche n'est pas en charge. Et donc, elle va parfois avoir du mal, ce groupe citoyen va avoir du mal à identifier à qui parler finalement pour identifier quelque chose. Parce que elle va avoir un problème. Là, on parle de pêche. Si ça se trouve, imaginons une situation dans laquelle il y avait peut-être des agronomes, des spécialistes de la gestion forestière. Bah, eux, ils n'y connaissent rien en coquillage. Donc, il y a ce problème un petit peu de disponibilité, je dirais, des dispositifs de recherche. Donc, ça demande aussi une adaptation des chercheurs, des équipes de recherche, à être très flexibles, à être très pluridisciplinaires, ouverts les uns aux autres, et à accepter de parfois se mettre en retrait quand le spécialiste de sciences du sol n'est pas la personne la plus compétente qui pourra aider, qu'il fasse appel à quelqu'un d'autre de son équipe, voire d'une autre organisation, IRD CIRAD par exemple. Nous travaillons sur souvent des projets ensemble en Afrique de l'Ouest par exemple. Et donc il y a une double difficulté de la part des citoyens de savoir à qui s'adresser. Moi je dirais que l'organisation en petits groupes déjà est une clé de l'affaire, et puis de faire appel aux groupes de la société qui existent, qui préexistent, des groupes de paysans, des associations, des ONG, qui elles-mêmes vont être les interfaces plus faciles peut-être pour mobiliser la recherche, qui souvent est dans les parages ou est dans les pays qui sont concernés.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter à s'adresser aux scientifiques. Et c'est vrai, Sylvain Perret, les conséquences du changement climatique et de la disparition accélérée de la biodiversité promettent évidemment un essor important de ces sciences participatives.
Ah, sans aucun doute, d'autant plus que l'action publique en France, en Europe, est extrêmement incitative sur ces questions. On le voit avec la nouvelle loi de programmation de la recherche qui est sortie fin 2020, et on voit que il y a tout un tas de lignes qui concernent ces sciences participatives. Les grands organismes français de recherche, et pas seulement de recherche finalisée comme le CIRAD, on voit qu'au CNRS, des initiatives sont prises pour aller vers des sciences plus participatives. On voit que l'Agence nationale de la recherche en France, qui était le grand donateur de la recherche publique en France, crée des fonds spéciaux pour plus de recherche participative. Il me semble qu'il y a encore des grands défis méthodologiques à partager entre nous. On voit même encore des différences entre organismes selon les perceptions, selon la façon d'appeler les choses, tout simplement, de nommer ce que l'on fait entre sciences citoyennes, entre recherche action participative, etc. Mais tout ça, c'est un peu du détail. Je pense qu'on y arrive. Le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur est un acteur important puisqu'il essaie de fédérer comme ça autour de lui tout un tas d'acteurs, tous ces organismes et leurs représentants. Donc pour le CIRAD, moi je joue ce rôle de référent sciences-société et notamment pour les sciences participatives. Mais je sais que j'ai un collègue à l'INRAE qui fait la même chose, à l'IRD et au CNRS, etc. Donc on va pouvoir partager nos méthodes, nos démarches et pourquoi pas à terme nos terrains et aller ensemble sur des terrains africains par exemple ou dans tous les pays du Sud pour être encore plus efficaces, pour rendre ces démarches participatives capables de générer ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire du changement, c'est-à-dire pas seulement des connaissances, mais aussi que nous progressions vers de la durabilité sur le terrain. C'est ça qui est important. Et on va y arriver.
Merci Sylvain Perret d'être intervenu dans C'est pas du vent.
Merci à vous.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Écrivez-nous, contactez-nous sur les réseaux sociaux ou par mail, c'estpasduvent@rfi.fr, et continuez à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.
Tous les jours,